VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydia Ouagadougou, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Nouveau gouvernement depuis hier au Burkina Faso. La nouvelle équipe comprend 32 ministres avec l'entrée de 5 nouvelles personnalités contre 30 dans l'équipe précédente nommée en janvier 2016 par le président Kaboré. Pas de changement dans les ministères clés, affaires étrangères, justice, économie et finances, mais le président burkinabé cède le portefeuille de la défense. Le domaine de la sécurité a maintenant son propre ministre, alors que le Burkina Faso fait face depuis 2015 aux attaques des djihadistes. En RCA, ville morte hier à Bambari, dans le centre du pays, où la population vit dans la psychose d'une nouvelle flambée de violence après l'expiration de l'ultimatum de 48 heures donné par la MINUSCA, la force onusienne, à Ali Daras, leader de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, pour quitter le territoire centrafricain. La région a été le théâtre d'accrochage la semaine dernière entre deux factions rebelles de l'ex-Séléka, l'UPC et le FPRC. Amaseka Amadou Robin, député de la circonscription de Bambari 2, décrit l'atmosphère sur place en ce moment.
Au niveau de la sécurité, notamment à Bambari, en particulier dans la Waka, c'est vraiment précaire par rapport au comportement des éléments de Ali Daras qui se substituent comme des militaires réguliers. Alors, ce sont des militaires non conventionnels. C'est comme ça qu'ils exercent à outrance en désordre. C'est-à-dire, la population veut vaquer à leur occupation. C'est impossible par rapport à leur manière d'agir. Ils font des incendies de n'importe comment. C'était comme ça que les gens ont peur de vaquer à leurs occupations, obligés de rester à la maison et souffrir. Et le gouvernement ne pense même pas à eux, ils sont abandonnés à eux-mêmes.
Ces éléments de Ali Daras dont vous parlez, ils sont visibles dans Bambari en ce moment?
Bien sûr, sous les yeux des gens de la MINUSCA. Alors ils se promènent avec les armes ensemble, c'est-à-dire parmi les gens de la MINUSCA, ils se croisent avec eux sans pourtant les arrêter, soit les désarmer.
N'est-il pas question de déloger Ali Daras, de le bouter hors du territoire?
C'est quand les gens préconise pour que, c'est-à-dire la ville de Bambari reste tranquille comme ça, les gens peuvent vaquer à leurs occupations. Au lieu de le bercer comme un enfant, je ne sais pas. Alors c'est un étranger.
Amaseka Amadou Aubin, député de la circonscription de Bambari 2 en RCA. En République démocratique du Congo, le gouvernement a refusé catégoriquement hier d'enquêter, comme l'ont demandé Washington, Paris et l'ONU, sur une vidéo mettant en cause les FARDC, l'armée nationale, dans un possible massacre. Kinshasa continue de qualifier la vidéo de montage grossier visant à nuire à la RDC. Jacques Aristide.
Deux autres vidéos, pas plus authentifiables que la première, ont été relayées par les réseaux sociaux. Elles montrent ce qui pourrait être des scènes de la brutalité ordinaire que dénonce l'ONU dans la répression de la rébellion Kamuinansapu au Kasaï. Le haut commissaire aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a demandé hier soir à enquêter sur ce qui apparaît, dit-il, comme un usage excessif et disproportionné de la force et à mettre un terme aux violations massives des droits humains dans cette région. La France a également exhorté les autorités congolaises à faire la lumière sur ce qu'elle appelle d'agissements inacceptables et à identifier et punir les responsables. Dès dimanche, le département d'État américain avait appelé Kinshasa à lancer une enquête immédiate et complète sur ces images. Le gouvernement congolais a réagi dans un communiqué officiel, opposant une fin de non-recevoir à ces demandes. S'estimant visé régulièrement par des rumeurs malveillantes, Kinshasa argue que face à des images d'amateurs anonymes, il ne lui revient pas de prouver l'innocence des forces armées du pays et d'ajouter qu'il appartient plutôt aux accusateurs, jusque-là inconnus, de prouver ces faits afin que tous les éléments incriminés en répondent conformément à la loi.
Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe, plus vieux chef d'État en exercice dans le monde, célèbre ce mardi ses 93 ans avec la ferme intention de continuer à régner sans partage sur le pays, malgré des signes extérieurs de vieillesse de plus en plus évidents. Comme c'est le cas depuis des années, le président Mugabe va souffler sur sa presque centaine de bougies lors d'une cérémonie limitée à ses ministres et ses plus proches collaborateurs. Ses concitoyens ont quand même été invités à lui faire parvenir leurs vœux via les réseaux sociaux des médias d'État.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Sécheresse sans précédent en Somalie, les experts prédisent une famine si la pluviométrie s'avère une nouvelle fois insuffisante. Déjà, le bétail meurt en masse, mettant en danger la vie de millions de personnes. Voici le reportage de Jason Patinkin dans le nord de la Somalie, présenté par Lionel Gaïma.
Même les hyènes ne veulent pas des restes du bétail de Mohamed Aden Gouled. Il y a si peu de chair sur les ossements des moutons, chèvres et chameaux qui parsèment la campagne. Après une autre année de sécheresse, Mohamed Aden Gouled est éleveur. J'avais 550 têtes de bétail, il ne me reste plus qu'une cinquantaine. Dans la région du Somaliland, au moins 40% des chèvres et des moutons ont péri, soit plus de 10 millions de bêtes. La population pourrait suivre s'il ne peut plus assez à partir du mois d'avril. Plus de 6 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire d'urgence selon les Nations Unies. 40 sont déjà mortes selon la commission somalienne chargée de la sécheresse. Les agences caritatives et le gouvernement somalien ont dépêché des camions-citernes pour remplir les puits asséchés. Chaque matin, des dizaines d'éleveurs conduisent des centaines d'animaux s'y abreuver. Mohamed Ibrahim Yassine est un autre éleveur. Seulement quelques dizaines d'animaux étaient assez robustes pour parcourir les 20 km et les séparant de puits. Des centaines d'autres sont trop faibles pour cette longue marche et trop faméliques pour être vendus. Pour la famille de Gaëlo Ismaïl Mohamed, les pluies arrivent trop tard. Elle a perdu, au cours de ces derniers mois, la centaine de chameaux dont elle vendait le lait pour gagner de l'argent. Démunie, la famille dépend désormais des dons pour survivre. Les Nations Unies disent avoir besoin de plus de 800 millions de dollars pour faire face à la situation, mais la commission somalienne chargée de la sécheresse a recueilli moins de 7 millions de dollars. Pour Mohamed Mousse, directeur de l'Agence somalienne de recherche et de préparation catastrophe, l'ONU a été lente à réagir.
We need help.
Nous avons besoin d'aide immédiatement. La requête va jusqu'à New York pour être approuvée. Entre-temps, les gens meurent. C'est une véritable course contre la montre qui est donc engagée dans l'espoir de survivre à cette sécheresse catastrophique.
Au total, près de 2 400 000 enfants risquent de mourir de faim cette année au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Précision de Jean-Roger Bion.
Au Yémen, où une guerre civile fait rage depuis près de 2 ans, 462 000 enfants souffrent de malnutrition sévère et ils sont 450 000 dans le nord-est du Nigeria où sévit le groupe islamiste Boko Haram. FuseNet, le réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine, a noté que les régions les plus reculées de la province de Borno au Nigeria sont déjà frappées par la famine depuis la fin de l'année dernière. Le désastre va aller en empirant, les agences d'aide étant dans l'impossibilité d'atteindre les victimes, souligne l'UNICEF. La sécheresse en Somalie a laissé 185 000 enfants au bord de la famine et ils seront quelque 270 000 d'ici quelques mois, a mis en garde l'agence onusienne. Au Soudan du Sud, plus de 270 000 enfants souffrent de malnutrition et la famine vient juste d'être déclarée dans certaines parties de l'État d'Unité, dans le nord, où vivent 20 000 enfants. Le directeur de l'UNICEF, Anthony Lake, a appelé à agir vite. « Nous pouvons encore sauver de nombreuses vies », a-t-il dit.
Pour terminer, en France, un policier devrait être jugé pour le viol présumé d'un homme avec une matraque lors d'une arrestation en 2015. Une autre affaire similaire a donné lieu ce mois-ci à de violentes manifestations dans le pays. Azuma Compaoré.
Le 29 octobre 2015, Alexandre, 28 ans, avait été interpellé au pied de son immeuble à Drancy, en banlieue parisienne. Un policier municipal, utilisant sa matraque pour le forcer à monter dans le fourgon, l'avait blessé à l'anus. Lors de son procès à la mi-janvier, le procureur avait requis 6 mois de prison avec sursis, estimant que les violences étaient avérées, mais sans intention sexuelle. Le tribunal de Bobigny devait rendre hier son jugement, mais avait demandé que le policier soit renvoyé devant la cour d'assises qui juge les crimes pour viol et non simplement pour des violences. L'avocat du policier, Florent Hochkorn, dit qu'il va faire appel tout en dénonçant la pression indirecte de l'affaire Théo. Théo, un jeune homme noir de 22 ans, a quitté l'hôpital jeudi après un viol présumé avec une matraque lors de son interpellation le 2 février à Aulnay-sous-Bois, près de Paris. 4 policiers sont inculpés, dont un pour viol. Cette affaire Théo avait provoqué de violentes manifestations en banlieue parisienne.
Merci de vos attentions. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.